Et j'avais même pas de désir de me dire « Je vais devenir comédien puis je vais rentrer dans la plus belle école professionnelle de théâtre. »
Il y a une partie où est-ce qu'on, nous, on se voit en tant qu'animal, on reconnaît des comportements qu'eux autres ont.
Cavalia qui te demande de faire des toiles, c'est incroyable comme offre.
Me sert de l'anxiété ruminatoire pour obséder sur mes numéros.
Sophie! Je suis en compagnie d'un jeune humoriste, Yannick Demartino, qui vient d'annoncer il n'y a pas très longtemps, je pense même que c'est aujourd'hui, voyez comment qu'on est dans l'actualité, même de l'humour, d'autres supplémentaires à Montréal. Ce sera le 25 avril, si vous n'avez pas vu son spectacle, dont le titre est « On ne peut plus drôle ». En tout cas, il va nous le réexpliquer. Les Dalmatiens sont énormes en campagne. Aussi au Club Soda, le 25 et 30 avril, 1er et 2 mai. Et ce qui est très drôle, Yannick, c'est que c'est moi qui t'apprends que, tu as des supplémentaires.
Oui, oui, oui. Ben c'est ça. J'aime ça ne laisser
savoir,
surprendre par
ouais.
le cours des choses. Donc, ouais, non, je l'apprends là. En fait, c'est toi qui me l'as appris. Donc, ben c'est cool. Je suis content.
Tu peux me dire merci, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Ouais, en fait, ça marche bien, ce spectacle. Pourquoi tu veux pas savoir ce qui se passe? Tu as demandé à ton équipe de pas te tenir au courant.
De la vente de billets et tout, oui. je sais pas, j'ai aucune idée. Ben, je trouve qu'on met souvent l'accent sur le nombre de billets vendus à un spectacle, puis je trouve pas que c'est nécessairement synonyme de qualité, le nombre de billets vendus. Donc, moi je vais vraiment juste me concentrer sur le spectacle, que j'en sois fier, puis que ça me représente vraiment. Donc, c'est vraiment juste ça mon but, et je suis content de le présenter. Puis là, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce spectacle-là puis qui veulent venir le voir, ben ça me rend heureux, c'est certain. Mais ouais, j'aurais pas voulu avoir le focus sur combien qu'il y a de billets de vendus. OK, telle place, il faut faire plus de publicité et tout. Donc, c'est pour ça. Je m'évite
drôle parce
de l'anxiété.
Que la plupart des humoristes avec lesquels je me suis entretenue vont au contraire dire, il y en a même là, qui sont très nerveux avant un spectacle. Ils vont aller voir à travers le rideau si la salle est pleine pour se rassurer. Ils vont demander à leur équipe, puis est-ce qu'on est tout vendu? Toi, tu es comme, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde. Ça te dérange pas trop?
Oui puis non. Je veux offrir le même spectacle. S'il y a moins de monde, il faut que je sois aussi bon, parce qu'il y a quand même des gens que les gens soient 10 ou 500, il faut que j'offre la même qualité de spectacle. Donc, il y a ça aussi en moi. C'est pas justement que je m'en fous. C'est plutôt que, peu importe le nombre de gens, il faut que j'offre la même qualité de spectacle. Mais ouais, non, ça me stresse plus que les chiffres me stressent en général. Je déteste parler de chiffres. C'est la même chose pour mon argent. Je sais pas combien j'ai dans mon compte de banque.
C'est vrai?
Je déteste ça. Tout ce qui est des chiffres, là, ça me... Ouais.
Fait que toi, c'était clair que t'allais pas être comptable.
C'était certain.
Et toi, c'est l'impro vraiment qui a été une révélation aussi, hein, quand t'étais plus jeune.
Mes premières armes sur scène, ça a été l'improvisation, hein.
Mais tu voulais plutôt écrire et pas forcément être sur scène.
Je m'intéressais beaucoup à l'écriture, en fait. Ben, j'aimais ça vraiment pondre des idées, créer, mais je me voyais pas nécessairement aller les défendre, ces idées-là, sur scène, parce que je m'imaginais pas être capable d'être devant public. Puis en essayant de faire de l'improvisation, j'ai réalisé qu'au contraire, ça me stimulait. Puis c'est parce que je suis assez timide au quotidien dans la vie. Je cherche pas à tout prix l'attention, mais j'ai réalisé qu'en étant sur scène, vu qu'on m'accordait cette attention-là, je savais quoi en faire.
C'est le fun parce que ça, c'est vrai que t'es plutôt timide et réservé.
Ouais.
Donc, tu te révèles sur scène? Ça t'a appris quoi sur toi, tu dirais?
D'une certaine manière, je me révèle, mais je pense parce que aussi, quand les gens ils viennent te voir quand t'es sur scène, t'as une proposition aussi. Dans la vie, quand on a de l'attention en général, on propose pas quelque chose de créatif. Donc, c'est mon monde intérieur, je pense, que j'ai travaillé, que j'ai peaufiné, que là, je dévoile au public qui veulent me voir. Mais dans la vie, je sais pas, je recherche pas l'attention à tout prix. Là,
On a un extrait, je pense qu'on a même un extrait de ton spectacle.
Okay.
N'est-ce pas, Sébastien?
J'ai été voir le film des Tortues Ninja. Et je trouvais ça spécial parce qu'en revenant chez moi, j'ai vu sur Facebook une fille qui avait écrit un statut qui disait « Hey, ça n'a pas rapport le film des Tortues Ninja parce qu'à un moment donné, ils mangent de la pizza hot, puis il n'y a pas de pizza hot à New York. » Puis j'étais comme, ben voyons donc, il n'y a pas non plus de Tortue Ninja.
Il Visiblement, le monde aime ça. Je pense que c'est pas ton spectacle, mais non, c'est un numéro.
C'est un vieux numéro, en fait, de 2015. C'est pas du matériel qui est dans mon spectacle, ouais.
On a un extrait de Like Moi, par exemple. Okay, okay. Parce que je pense qu'il faut rappeler aux gens, ceux qui disent « Ah, oh, c'est qui déjà Yannick Demartineau? Je l'ai pas vu son show avec la vache. Mm-hmm. » Mais il me semble que je reconnais sa voix à Like Moi. Tu fais partie de la belle gang de Like Moi. Puis là, la dernière saison, vous êtes comme un peu en deuil, même si on l'a pas vu la dernière. On va la voir avec grand plaisir, mais vous avez fini le tournage. Voici un extrait de Like Moi, d'ailleurs.
Okay. Merci de nous avoir invités.
Oh, c'est juste un souper potluck bien simple. Tout le monde amène un petit quelque chose.
On adore les potlucks.
On a fait une lasagne.
Yeah!
Honnêtement, les soupers potluck, c'est de la furieuse marde.
Si tu nous invites à souper, oblige-nous pas à faire à manger à ta place.
Quand il faut qu'on prépare notre repas puis qu'on l'apporte ailleurs, ça s'appelle un lunch. Puis ça, on en mange à tous les jours. Fait que lâche de jouer à l'hôtesse puis assume que tu reçois comme une cafétéria de polypalante.
Tout le monde apporte un petit quelque chose. Ça veut juste dire que tu vas manger de la lasagne avec de la quiche, du baba ganouche, un pogo puis du blé d'Inde en même temps. Fait que fuck you, potluck.
Yeah! Il est vraiment mourant.
Ouais, ben merci.
Ouais. Dans ton spectacle, as-tu un peu ce ton de qui est assez propre à Like Moi, mais qui est aussi le ton d'une certaine génération?
Ouais, ben c'est un mélange un peu. Je suis souvent dans l'ironie, souvent dans le deuxième degré.
Exact.
C'est sûr que là, c'est l'écriture de Marc Brunet dans Like Moi. Là, c'est mon écriture à moi dans le spectacle. Ben c'est sûr je pense que c'est une association naturelle qui a été faite. Donc peut-être qu'il y a des trucs qui rappellent un petit peu l'écriture de Like Moi dans le style de pensée, mais ça reste quand même que peut-être c'est pas exactement le même ton là. C'est pas non plus toujours de la critique de ma génération, de la critique sociale, effectivement. Là. Il y a aussi mon personnage, entre guillemets, de scène qui parle un peu de sa vie, de son passé, puis de ses réflexions. Là.
Ouais. Je dirais que le thème principal...
Il y en a pas tant que ça, mais j'ai réalisé par exemple que le sous-jacent, il y a beaucoup de pensées reliées à l'anxiété, puis un petit peu l'hyperactivité que ça cause comme effet. Donc je pense que souvent le résultat, c'est des pensées un petit peu qui après ma barre, on peut penser qu'il n'y a pas de lien entre ces pensées-là, mais je travaille beaucoup en champ lexical. Donc, tu réalises, après coup, tu fais « OK, ouais, telle idée a amené à une autre, qui a amené à une autre, qui a amené à une autre. » Donc, je dirais que le thème principal, c'est peut-être l'anxiété, mais c'est vraiment pas mis de l'avant. Il n'y a pas de... J'aime que le fil conducteur, en fait, soit un petit peu invisible.
Mm-hmm. Ouais. Mais... On le sentait tout à l'heure et c'est pour ça que j'ai commencé l'entrevue en te parlant de tes billets. Puis tu m'as dit, moi, ça me rend anxieux.
Mm-hmm.
T'es quelqu'un plutôt... Puis c'est pour ça, je pense que les plus jeunes aussi, même si tout le monde le devient un peu à différents niveaux, mais on le voit chez les plus jeunes générations, il y a cette anxiété qui est peut-être plus évidente qu'elle l'était il y a quelques années, là.
C'est possible. Je
ressens pas ça, toi, t'as ton anxiété personnelle. Mais...
Ben, c'est parce que je pense que c'est propre à chacun. Puis je veux pas dire que c'est pire ou moins pire qu'un autre. J'en ai aucune idée. Mais
moi, je trouve qu'il y en a beaucoup.
Ouais, il a l'air d'en avoir beaucoup. Je sais pas si tout le monde, justement, a été pour un diagnostic, si tout le monde essaie de faire quelque chose avec ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a un lien avec le travail puis le souci de performance constant.
Ouais.
Je pense qu'il y a clairement un problème là. Puis je trouve souvent, par exemple, le problème, on essaie de régler pour continuer à travailler puis continuer à servir... Mais je pense que des fois, peut-être que le problème devrait être pris à l'inverse.
C'est-à-dire se demander pourquoi on fait les choses?
Peut-être. Puis des fois, juste aussi diminuer tout simplement puis être capable de focaliser sur les bonnes choses. Mais moi, en fait, ça a été une surprise. Je savais pas c'était quoi l'anxiété. C'était pas un mot que je mettais sur qu'est-ce que je ressentais nécessairement. Mais au fil du temps, justement, en ayant été consulté, c'est là que j'ai fait « Ah, OK, c'est possible. » Parce qu'il y avait des signes même physiques, des tics nerveux que j'avais. Je pense, dans la dernière année, quand on m'a vu en entrevue aussi, je clignais plus de l'œil droit, des trucs comme ça, que je me disais, ah, ben, je vieillis, je dois commencer à avoir des tics nerveux, mais finalement, ça a vraiment diminué, même arrêté, pour la majorité du temps. C'est sûr, ça m'arrive des fois encore, mais c'est là que je suis capable d'identifier maintenant, ah, OK, c'est de l'anxiété.
Ça peut amener plein de symptômes, y compris physiques, là, complètement, t'as raison. On doit s'arrêter ici, mais on revient, bien sûr, tout de suite. Après, en entrevue sans filtre, je reçois Yannick Demartineau. Restez là, tout le monde. Je suis en compagnie de Yannick de Martineau qui a son spectacle. En ce moment, les Dalmatiens sont énormes en campagne. C'est un titre amusant parce que tu voulais attirer de l'attention surtout.
Ouais, ben il y a ça. En fait, je cherchais ma blague la plus courte après ma barre, puis c'est ça qui est sorti. Puis aussi que je trouve ça intéressant parce que en fait, je parle pas de bovins dans le spectacle, je parle pas de la campagne du tout. Mais j'aime bien ça, par exemple, me rendre à mes propres conclusions en faisant abstraction des choses que je connais, pis en me fiant juste à mon imaginaire. Donc des fois, ça donne des résultats comme ça que tu fais ah c'est pas stupide si quelqu'un c'est pas c'est quoi une vache. Tu fais, ah, ça se peut qu'il pense ça. Donc, j'aime ça penser de cette manière-là à travers mon personnage, si on veut.
Un peu décalé, un peu déjanté. Tu parlais avant la pause de ce que tu as vécu comme anxiété. Tu as eu l'année dernière, justement, on parlait de l'anxiété que pouvait te causer le fait de savoir combien tu as de téléspectateurs qui ont acheté des billets. Donc, tu n'aimes autant pas le savoir. Puis on comprend mieux quand tu nous expliques qu'avant, justement, ton spectacle et tout ça, alors que tu étais en création, tu as vécu quand même un moment de même jusqu'à la dépression, assez important, là.
Ouais, ben tu sais, une forme de, si on veut. Ouais. J'ai été consulté parce que, justement, il y a un moment que j'avais de la difficulté à ressentir de la joie par rapport à qu'est-ce qui s'en venait, mais j'avais pas associé ça jamais à de l'anxiété avant. Donc, ouais, j'avais vraiment envie de tout arrêter ça, puis ça m'emballait pas. Donc,
As-tu pris des antidépresseurs?
Non, finalement, non. On m'en a... j'aurais pu, mais non, j'ai pas accepté déjà de mettre le mot là-dessus. Puis là, finalement, peu de temps après, j'arrivais un petit peu plus, je pense, à m'en sortir, à aller un petit peu mieux, des fois moins. C'était un petit peu en roller coaster, là, si on veut, dans
comme
montagne
la vie, finalement.
Oui, mais un petit peu plus intense, ouais. Parce que je veux dire, la vie, je l'ai vécu jusqu'à 29 ans, puis c'est à 29 ans là que je trouvais ça plus difficile.
Temps.
Ben ouais. le spectacle, tout ça, je pense que c'est la difficulté de gérer tout ça en même temps, de comprendre son monde intérieur, les émotions reliées à ça. Je j'associais pas nécessairement ça à de la nervosité à la base. Je sais pas, mais ouais, finalement...
Mais c'est ça qui est ressorti, hein? C'est ça qui te stressait.
Ouais.
Mais tu me disais aussi, c'est difficile de avec les réseaux sociaux, puis toi, t'as participé à Like moi, c'est ça. Mm-hmm. C'est une critique de l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux, surtout pour une certaine génération, mais je pense qu'on peut mettre beaucoup de générations là-dedans, là, parce que peu importe l'âge, à des degrés différents, tout le monde est un peu là-dessus. C'est vrai que chez les jeunes, le téléphone, plus t'es jeune, puis plus t'as ton téléphone scotché dans la main. Toi, tu disais, je m'en rends compte d'ailleurs, que même comme acteur, comme comédien, comme humoriste, quand tu passes des auditions, par exemple, le nombre de clics que vous avez, ça peut influencer qu'on vous prenne ou non?
Ben ça dépend, là. Je veux pas me mettre non plus dans les chaises des producteurs, là. Mais c'est évident que l'attention qu'on a présentement, c'est sûr, ça peut être chiffré, c'est quantifié. Qu'est-ce qu'avant, ça ne l'était pas. Donc, ça peut être impressionnant. Quelqu'un qui a X nombre de gens qui le suivent sur Instagram, sur Facebook. Donc, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients.
Est-ce que tu te sens obligé, toi, des fois, d'aller générer du clic?
Ben c'est sûr qu'il y a une petite culpabilité des fois de ne pas faire à tous les jours du contenu, mais je veux dire j'ai de la difficulté de donner accès à mon quotidien et tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme un désir qui est vraiment répandu de devenir connu, devenir populaire. Je trouve ça un petit peu absurde là, qu'un peu tout le monde veut ça, mais au final, c'est beaucoup pour la vente. Il y a beaucoup de gens que c'est simplement pour vendre des trucs. C'est vraiment ça, se faire, dans le fond, demander par des compagnies de vendre. Il y a de quoi je trouve un peu absurde là-dedans.
On parle beaucoup des influenceurs. Es-tu influençable?
Non.
Parce que quand tu vois des trucs sur Internet...
Ben, quand je vois quelque chose sur Internet que j'aime, je l'achète, mais je veux dire, je suis influençable par rapport à l'objet, là, pas par rapport à la personne qui me le vend.
Ouais,
honnêtement, que ce soit n'importe qui me vend une bartown que j'ai pas envie de manger, je la mangerai pas plus, mais si je vois quelque chose que je trouve cool sur Internet, ben, moi, l'acheter.
Ouais. Il faut absolument que tu me parles du fait que ça, on le sait pas, et c'est bien parce qu'on s'enfile ton âme à prendre des affaires qu'on sait pas sur notre invité. Tu es dans le top 30 des meilleurs joueurs de jeux Tetris au Canada.
Ouais, ben je pense. j'ai un peu dit, j'ai dit top 30, là, mais je l'ai été un moment donné sur Facebook, là, dans le jeu sur Tetris. Mais je suis quand même bon. J'ai fait un tournoi l'année passée. Puis,
fait que tu fais des tournois de Tetris.
J'en ai fait un, justement, ouais. Que j'étais porte-parole à. Il y a un bar qui s'appelle Arcade Montréal, qui font souvent des tournois de plein de jeux. Puis à un moment donné, ils ont décidé de faire un tournoi de Tetris 2 sur le vieux Nintendo. Puis j'étais comme le porte-parole, donc il fallait. Il y avait un tournoi, puis à la fin, le gagnant de ce tournoi-là m'affrontait. Puis, puis justement,
et qui a gagné?
Ben finalement, c'est l'autre personne qui a gagné, mais honnêtement, c'est quand même serré, puis cette personne-là était vraiment, vraiment bonne, parce que même moi, je le voyais jouer avant de l'affronter. Je suis comme, OK, là, ça va être ridicule, ça va être une joke, tout le monde. Parce que je voyais que les gens étaient sérieux dans la démarche. Moi, je voyais un petit peu ça comme une blague, ce tournoi-là.
Non,
là,
non, c'est sérieux, là. C'est très sérieux.
Mais il y avait personne qui trouvait ça drôle que finalement, je sois pas bon ou je sois moins bon, tu sais. J'ai fait, Colin, OK, j'ai vraiment une vraie pression. Mais finalement, je me débrouillais bien, puis j'ai senti un moment donné du respect qui commençait à être généré, là. Fait que, ouais.
Donc, tu continues de jouer?
Ouais,
c'est une passion,
ça. Ouais? Ouais, ouais, j'aime vraiment ça.
Parce que, c'est quoi, tu dirais, ton premier truc qui t'attire dans ce jeu-là?
Les blocs qui disparaissent, je sais pas. Non, mais il y a un aspect mathématique que j'aime bien, puis très spontané, il faut que tu ailles vite, je sais pas, la rapidité, les couleurs. Il y a quelque chose de très enfant en même temps là-dedans. Là.
Merci beaucoup, Yannick, d'être venu nous voir. Yannick Demartino était notre entrevue sans filtre. À demain, tout le monde, passez une bonne journée.